La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, a le plaisir d'accueillir deux invités. Marie-Francine Lejalu.
Bonjour.
Documentariste, réalisatrice du film Droit dans les yeux, qui est sorti le 1er février 2023 et qui continue sa vie en salle pour le plus grand bonheur des spectateurs. Il est consacré à une clinique juridique, la première qui a été créée en France, donc celle de l'université Paris 8 Saint-Denis. Et un des protagonistes du film et un des cliniciens, donc un des membres de cette clinique juridique au moment où le film a été tourné, Antoine de Flandre.
Bonjour.
Qui est depuis, bien sûr, devenu avocat. Nous allons explorer un certain nombre de facettes de ce film dans 3 épisodes successivement. Alors, nous allons parler de ce documentaire. Et tout d'abord, Marie-Francine Lejalu, pourquoi une clinique juridique, puisque c'est le thème de votre documentaire, hein ? Pourquoi ce choix ?
Alors, le choix est... la clinique juridique, je ne vais pas dire qu'elle est secondaire, puisque bien sûr, cette action en particulier me semblait particulièrement significative. Une clinique juridique, c'est un lieu où des jeunes étudiants en droit vont essayer d'aider ou d'accompagner des justiciables. Et eux-mêmes font ça pour la première fois de leur vie en général. Ils sont donc étudiants en droit. En fait, ce lieu m'intéressait particulièrement parce que c'est un endroit où des jeunes gens mettent leur savoir au service de leurs concitoyens. Et pour tout vous dire, le point de départ initial pour moi, c'était de montrer des jeunes de Seine-Saint-Denis qui ne sont pas la caricature qu'on en fait assez souvent.
Très bien. Donc vous nous dites des étudiants en droit que vous connaissiez peut-être en amont, vous aviez quelques contacts avec eux. Comment s'est passé, alors ce choix Saint-Denis, on a bien compris, mais comment s'est passé le choix de cette université et le choix de ces étudiants ?
Alors quand j'ai découvert l'existence des cliniques juridiques, en fait, c'était la première. Donc on est en 2014 quand je lis un article dans Le Parisien qui parle de la clinique juridique de Paris 8. À l'époque, je crois qu'il y en avait deux, mais la deuxième avait un mode de fonctionnement très différent puisqu'elle traitait des dossiers juridiques. C'est la clinique des droits fondamentaux de l'université de Caen. Voilà, je découvre ce lieu qui me surprend en fait. C'était quoi votre question ?
Mais vous avez en partie répondu, vous m'avez dit, je voulais montrer des jeunes de Saint-Denis qui ne correspondaient pas à la caricature.
Oui.
Et j'ai lu un article dans Le Parisien en 2014 consacré à la clinique juridique. Et vous avez pensé que c'était la bonne entrée de montrer des jeunes de Saint-Denis qui faisaient autre chose que ce que l'image populaire a en tête.
Tout à fait. C'est-à-dire, je ne cherchais pas spécialement à montrer une clinique juridique, mais je cherchais à montrer des jeunes dans une initiative, entre guillemets, positive, qui a une démarche active d'aide et de soutien.
Et ensuite, donc, comment s'est opéré le recrutement des jeunes ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette clinique juridique.
Alors, en fait, je suis allée voir ce qui s'y passait. Pour tout vous dire, les repérages ont duré un peu plus d'un an. Mais dans cette clinique juridique, et dans la plupart, en fait, les jeunes changent chaque année. Ça dépend des étudiants qui sont là à un moment donné et qui sont volontaires pour y participer. Donc, j'ai fait des repérages. J'ai passé du temps sur une année universitaire complète avec les jeunes de la clinique juridique. Et quand il s'est agi de tourner, ça n'était plus les mêmes jeunes gens, puisqu'ils changent toutes les rentrées. Voilà.
Peut-être certains poursuivent leur activité sur plusieurs années. Par exemple, ce sont des étudiants de troisième année de licence. Ils peuvent peut-être poursuivre en master 1 ou master 2, non ?
En fait, non. Ils font un an et puis ils cèdent la place à de nouveaux entrants. Donc, ils étaient à peu près une trentaine. Et en fait, je les ai donc rencontrés un par un. En début d'année, je les ai en fait mis en situation de tournage, entre guillemets, dans le lieu de la clinique juridique, face à une caméra, avec des micros. Et voilà, on a fait connaissance, en gros, une demi-heure avec chaque étudiant pour leur exposer le projet. Et puis, là, en savoir un petit peu plus sur eux, sur leur motivation, et qu'eux puissent me poser les questions qu'ils souhaitaient pour envisager de participer au film ou pas. Certains étudiants ne souhaitaient pas participer au film à l'issue de ces rencontres.
D'accord. Donc vous, Antoine, vous avez accepté cette proposition ?
Oui, Et si je peux compléter le propos de Marie-Francine, en fait, c'est la clinique juridique, c'est une association, mais qui prend la forme d'un diplôme universitaire. Donc on passe ce diplôme universitaire et si on souhaite maintenir son engagement au sein de cette association, on continue à l'issue de ce diplôme universitaire. Mais le format, c'est sur une année, en réalité.
Pour obtenir ce diplôme universitaire.
C'est ça. Et les anciens cliniciens, s'ils le souhaitent, restent dans l'association et épaulent les nouveaux venus et restent engagés au sein de cette association.
Et pour ce qui vous concerne, donc vous étiez dans le cadre d'un DU à l'époque ou pas du tout ?
J'étais dans le cadre du DU.
D'accord.
Moi, j'étais à une période de ma vie un petit peu charnière puisque j'avais validé mon Master 2, raté le concours du CRFPA, qui est le concours d'entrée à l'école d'avocat, et j'avais une année vide dans laquelle je ne savais pas la remplir. Et avec un groupe d'amis, on a entendu parler de cette clinique juridique et comme je suis très facilement influençable, j'ai suivi ce groupe d'amis et j'ai fini dans ce diplôme universitaire, exactement.
Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé dans la réussite ultérieure de l'examen d'entrée à l'école d'avocat ?
Bien sûr, je pense que c'est pas... cet examen d'entrée, c'est une épreuve universitaire. Là, dans le cadre de la clinique juridique, je pense que c'est vraiment d'un point de vue, c'est l'épreuve du feu, c'est l'épreuve du face-à-face avec les gens, qui est une épreuve, pour le coup, absolument pas universitaire. Si on met de côté la petite note d'information qu'on fait au justiciable, où il y a un petit peu de recherche, mais finalement, ça, c'est un exercice qu'on apprend à faire dans nos études, et c'est pas ça la valeur ajoutée la plus importante de cette clinique juridique, je pense. Puisqu'on met en œuvre une méthode qu'on apprend par ailleurs dans nos études, mais à la vraie plus-value, c'est la rencontre, le face-à-face, pense, pour moi en tout cas.
Nous allons écouter le premier extrait. C'est Benjamin Pitchot qui est maître de conférence en droit privé et avocat et qui est donc créateur de cette clinique juridique de l'université Paris 8 Saint-Denis.
Ce qu'on vient vous demander ici, ce n'est pas d'être des étudiants, c'est d'être des citoyens. Mais vraiment des citoyens à part entière, des personnes qui prennent leur part d'engagement dans la vie de la cité. Vous êtes vraiment des personnes qui devaient prendre conscience du rôle politique que vous pouvez emprunter. Donc d'une certaine manière, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'on n'est pas seulement là pour travailler sur le problème de Monsieur Dupont qui a un problème d'assurance, on n'est pas là seulement pour le plaisir de travailler pour des étrangers, des étudiants qui sont étrangers sans papier, qui font l'objet d'une OQTF, on est là pour faire que ces personnes puissent faire valoir leurs droits fondamentaux. Et quand vous permettez à ces personnes de faire valoir leurs droits fondamentaux, vous permettez à proprement parler à la démocratie d'exister.
Est-ce que rétrospectivement, ces propos correspondent exactement à votre expérience donnant dans cette clinique?
Je pense que je les comprends jamais aussi bien rétrospectivement, parce qu'en fait, Benjamin Pitchot, il est avocat. On peut trouver des similitudes entre le travail d'un clinicien et d'un avocat, sauf que le clinicien, il n'y a aucun aspect commercial, il n'y a aucun aspect intéressé. Donc c'est associatif, c'est de l'engagement. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je comprends mieux le trait d'union qu'il essaie d'établir entre l'intervention de ces cliniciens et la vie de la cité. Je le comprends très bien. Est-ce qu'au moment où je l'écoutais, à ce moment-là, je comprenais aussi bien ? Peut-être pas. Mais oui, il définit très bien le projet, en tout cas, qu'il a souhaité insuffler dans la création de cette clinique juridique.
Et tel que vous l'avez vécu également, à l'intérieur ?
Et tel que je l'ai vécu. Alors, c'est vrai que c'est rétrospectivement que j'arrive à parler comme ça, parce que moi, j'étais quand même aussi dans ma vie et dans la recherche de mes aspirations professionnelles et des débouchés. Je suis à la sortie de mes études, je ne sais pas quoi faire, j'ai ce diplôme universitaire. J'ai quand même d'autres préoccupations que la vie de la clinique. Donc, oui, je suis à la recherche de donner un petit peu... de concrétiser, de faire quelque chose de ces études de droit, mais je suis aussi très préoccupé par mon avenir, et je sais que la clinique juridique va pas me donner un métier, très concrètement. Il va falloir que j'en fasse plus. Donc, c'est une étape supplémentaire, mais au moment où Benjamin Pitchot le définit comme ça, je crois que j'ai à peine les idées aussi ailleurs.
Si je peux compléter un petit peu, tu avais quand même déjà un point de vue assez construit sur le rôle du droit dans la cité, justement. Au moment où, voilà, où on discute, tu formules quand même des choses assez, assez claires sur l'importance du droit, la façon dont il construit les règles de notre société et comment il évolue dans le temps, par exemple. Voilà, y a une conscience politique, malgré tout, chez toi, enfin, ou du rôle politique du droit qui existe déjà.
C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'était une position, c'était une approche théorique et pas un positionnement personnel. Je m'y voyais pas. Voilà, donc peut-être que cette clinique, ouais, c'est un petit saut dans le réel. Saut dans le réel qu'on fait pas dans les études, mais c'est pas un défaut des études, c'est un temps différent. Je pense qu'il y a le temps de la théorie qui est hyper important. Je le conçois et je le reconnais facilement, mais ça, c'est la traduction dans le réel, cette clinique juridique et cette approche du concret, en fait. Ces règles de droit, elles existent, oui, on peut en parler longtemps, on peut faire des longues conférences. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Avec la clinique, on a un début de réponse.
Marie-Francine, quand vous avez entendu ce premier extrait, est-ce qu'il vous a conforté dans votre choix de film, dans le traitement de votre sujet ? Comment l'écoutez-vous aujourd'hui, sans le voir déconnecté de l'entièreté du film ?
C'est-à-dire que, pour tout vous dire, quand Benjamin formule ça, c'est ce que j'attends qu'il dise. C'est-à-dire que je le connais depuis 2 ans. Voilà, je sais ce que j'attends au moment du tournage. Un film, ça s'écrit dans la tête longtemps à l'avance, si
alors,
je puis
dans
dire.
La tête, ou on l'écrit également sur un papier ou sur son ordinateur?
On l'écrit également sur un papier, puisque, comme vous le savez sans doute, enfin, à la fois pour soi, pour se clarifier les idées, c'est un moment important, mais aussi pour les autres, puisqu'il faut trouver des financements pour produire un film. Donc il faut convaincre un certain nombre d'interlocuteurs, et ça, c'est une étape aussi où il faut être capable de clarifier sa pensée. Donc voilà, au moment où Benjamin dit ça, je l'attends comme pour d'autres avocats du film. Hein, je sais ce que je viens chercher avec ce film, même si au tout début, quand j'ai lu l'article du Parisien, c'était une idée générale. Ça s'est concrétisé en proximité avec ces jeunes que j'ai accompagnés dans des rencontres avec des justiciables pendant un an, en fait, et où j'ai précisé l'objet du film, qui pour moi a été justement cette rencontre et comment eux qui découvraient ça et qui étaient dans ce face-à-face pour la première fois de leur vie allaient pouvoir composer avec leurs émotions, leurs convictions, leurs expériences personnelles, justement pour certains d'entre eux, ça c'est aussi une des clés du film, on en parlera peut-être plus tard, mais pour certains d'entre eux, ils sont des deux côtés de la barrière.
Bien sûr. Donc vous me parlez d'écriture, vous me parlez d'attente que vous aviez. Concrètement, comment ça se passe pour un documentariste ? Vous restez là pendant toutes les rencontres professionnelles, enfin de formation, donc, puisque ces étudiants ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont encadrés par des enseignants qui peuvent être également avocats ou des avocats simplement. Est-ce que vous, toutes ces rencontres, vous les avez filmées, vous les avez dans vos rushs et vous avez gardé que la quintessence, ou vous saviez que certains allaient tenir ce type de propos et donc vous veniez spécifiquement ces demi-journées ou journées de formation?
Alors en fait, ils ont ces journées, ces samedis une fois par mois. Je pense que j'ai filmé, je suis allée à chacune de ces rencontres, effectivement parce que chaque professionnel amène un point de vue différent et que ça pouvait entrer en écho, enfin faire écho à l'expérience des jeunes. Donc pour certains, je les connaissais déjà pour les avoir vus pendant l'année de repérage précédente. Et donc, parfois, j'attendais effectivement des choses très précises, comme c'est le cas avec Bertrand Perrier. Pour d'autres, c'était plus vague. Je savais pas trop ce qu'ils allaient dire à chaque fois. Donc, ça s'est construit, en fait, en fonction des échos qui se créaient avec les expériences vécues à la clinique juridique, en fait.
Et de leur côté, est-ce que certains des intervenants ont refusé d'être filmés ? Parce que vous nous aviez parlé des étudiants, vous aviez installé un dispositif, et s'ils ne se sentaient pas à l'aise, ben, finalement, vous ne les avez pas filmés, mais du côté des intervenants
Non. Tous les avocats, les enseignants ont accepté.
De bon cœur d'apparaître dans le film. Quoi. Quels sont leurs retours, d'ailleurs, à la fois et aux étudiants, puisque vous avez fait toute une série de projections. Hein, le film est sorti le 1er février 2023. Vous nous avez dit, avant le début de l'émission, qu'il y avait un certain nombre de dates là, qui étaient prévues au mois de novembre. Donc, vous accompagnez le film. Quel est le retour, non pas des spectateurs, mais quel est le retour des personnes qui ont été filmées, à la fois donc, des étudiants et puis des intervenants. On parlera des justiciables après.
Alors... Des étudiants, en fait, je pense que c'est toujours une expérience paradoxale, enfin contradictoire quand on se voit à l'image. Mmh. Surtout qu'ils se sont découverts 3 ans après, donc avec un certain recul, ils se voient un peu comme des bambins. Voilà, ils ont pris du recul par rapport à ça. Après, voilà, oui, ils se retrouvent et ils comprennent aussi un petit peu leur parcours. Ça leur permet de rétrospectivement de comprendre leur propre parcours. Les enseignants, en fait, ils font peu de retours. Hein. Ils sont
habitués.
Ils sont habitués, entre guillemets. C'est leur matière fondamentale sur laquelle ils travaillent. Je prie un tout petit extrait. Bon, souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. Par contre, pas sur eux-mêmes, mais bon, sur le film éventuellement, sur le côté plus émotionnel, on va dire.
D'accord. Et vous, Antoine, alors, se voir à l'écran?
Moi, c'est exactement ça. En fait, je pense que j'ai dû le regarder au moins 2 fois avant de voir le film, parce que c'était une vraie introspection sur une période de ma vie où, je l'ai souvent dit en le présentant avec Marie-Francine, mais je voyais qu'un espèce de mal-être que, à mon avis, beaucoup d'étudiants connaissent. Je vais parler de mon expérience, mais quand on essaie de tenter des concours, il y a beaucoup d'incertitudes et de stress, et puis on a l'impression que toute sa vie en dépend, et ça génère une anxiété dans laquelle j'étais à ce moment du film. Et moi, j'ai l'impression de me voir avec une espèce de colère un petit peu difficile à qualifier, mais je me vois pas très bien dans ma vie. Depuis, ça va très bien, et donc de me voir comme ça, ça me faisait vraiment bizarre, et donc j'ai mis du temps avant de réussir à regarder le film sans me voir moi dans cette période que j'estimais assez, rétrospectivement, assez difficile, mais vraiment salvatrice. Mais de mon point de vue aujourd'hui, ouais, je j'aime pas celui que j'étais à ce moment-là. C'est rigolo, mais...
Enfin, oui. Si je peux...
Oui, oui, allez-y.
C'est pas ce qu'on voit. Non. Je pense pas que c'est ce que voit le spectateur du tout.
Non, non.
Mais voilà, c'est toujours ce hiatus.
Je sais qu'il y a une caméra et j'essaie de lisser aussi peut-être ce mal-être. Je suis très à l'aise d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ressentent cette sensation face à l'incertitude de l'avenir.
Tout à fait.
Et donc, que c'est un mal-être à apprivoiser parce que je pense que c'est un moteur puissant. Mal-être, c'est peut-être pas le bon mot.
Vous êtes à la croisée des chemins.
C'est ça, c'est anxiogène, c'est stressant, on sait pas, et puis voilà.
Mais on sent bien cette incertitude, oui.
Ouais.
Oui, cette incertitude, oui, plus que mal-être, oui. Mais c'est normal, croiser des chemins. Vous avez fini une formation.
Une formation longue. On a l'impression qu'il y a un concours qui va tout dénouer.
Oui.
Mais en même temps, si on l'a pas, tout peut être cassé. Et donc, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais quand on est partie prenante et à ce moment-là, c'est notre réalité et ça peut être violent.
Vous êtes aussi à la croisée des chemins sur un plan personnel. Hein. Vous n'avez pas 25 ans d'expérience professionnelle, diverses et variées. Donc, tout se mêle et c'est un nœud inextricable, en quelque sorte, effectivement. Oui, oui, oui. Alors, cette caméra, Antoine vient de parler de la caméra. Vous, en tant que documentariste, est-ce que vous reprendriez les propos de Raymond Depardon qui nous dit « La caméra, quelle qu'elle soit, elle entame le réel ».
Ah, clairement. Oui, bien sûr. La caméra et la présence des personnes derrière. Mais évidemment, en fait, toute présence audiovisuelle, enfin toute présence modifie le réel, courbe le réel, si on peut dire. Donc oui, elle intervient. Après, il faudrait demander aux étudiants comment elle a modifié leur moment, la façon dont ils vivaient les choses à ce moment-là. Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, elle intensifie les expériences. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une tension supplémentaire qui se crée du fait qu'on se sait filmer. Et je pense, d'une certaine façon, que le tournage a aussi accéléré la réflexion pour les jeunes qui étaient filmés, en fait, par rapport à d'autres qui ne l'étaient pas. Parce qu'il y avait un questionnement, une remise en cause, que, pour ne rien vous cacher, je leur posais aussi des questions hors caméra, enfin voilà, on discutait, etc. Donc, il y a une présence qui effectivement modifie l'expérience vécue. Ça, c'est...
Et d'un point de vue technique, c'était une seule caméra, plusieurs caméras? Quelle était la taille de l'équipe?
Alors, en fait, le lieu est petit. Et on est quand même dans des moments où, pour les justiciables, dont effectivement on n'a pas parlé pour l'instant, mais pour les justiciables, voilà, c'est une intrusion dans leur intimité. D'autant plus que ces personnes viennent de manière impromptue, sans rendez-vous. Elles ne savent pas qu'il y a une équipe de tournage. Donc à chaque fois, c'était une découverte. Elles ouvraient une porte et elles se retrouvaient face à une équipe de cinéma.
Une double équipe.
Voilà,
l'équipe des étudiants et puis l'équipe de tournage.
Donc voilà, du coup, pour moi, c'était important d'avoir une équipe la plus minimaliste possible pour ne pas peser trop lourd, même si on pèse toujours d'une façon ou d'une autre. Par contre, bah oui, la caméra, elle est assez volumineuse. C'était pas la petite caméra de poche, etc. Et en plus, comme vous avez pu le constater peut-être dans le film, c'est nous avons installé un rail de travelling de manière à pouvoir déplacer la caméra de manière fluide, puisqu'en fait, on est face aux jeunes qui sont deux. On a un justiciable dans la pièce qui est de dos. Et donc, pour pouvoir se déplacer, je voulais que ça soit quelque chose de très fluide et justement peu interventionniste. Donc, on a fait ce choix de rails de travelling. Et donc, l'équipe était minimaliste, c'est-à-dire deux personnes. Pour moi, c'était essentiel d'avoir quelqu'un à la caméra qui soit vraiment un grand professionnel, parce que je voulais une image, une entre guillemets belle image. C'est-à-dire, je voulais pas une image qui aille dans le sens de la situation est déjà difficile, le lieu est pas très beau, je voulais pas en rajouter dans une image trop brute. Au contraire, j'ai fait un travail pour que l'image soit assez douce et assez belle.
Et un peu intimiste, hein?
Oui, intimiste, ah bah, clairement.
Malgré, ouais. Malgré le dispositif, là, vous le dites, travelling, etc. Donc, on ressemble presque un cocon dans lequel le justiciable est reçu et dans lequel les étudiants se retrouvent également.
Tout à fait. C'est lié au lieu et puis à cette écoute aussi. Et donc, le deuxième élément, effectivement, c'est le son, qui est hyper important, bien sûr, parce que beaucoup de choses passent par la parole dans ce film. Et aussi parce que le justiciable est de dos dans le film, quasiment en permanence. Et cette voix, évidemment, elle est essentielle. Il y a beaucoup de choses qui passent dans les intonations. Donc, le travail du son était vraiment hyper important. Et il se trouve que j'ai une formation d'ingénieur du son. Donc, c'est moi qui me suis occupée du son en même temps que de la réalisation.
Voilà. Ah, d'accord. Donc, vous étiez la deuxième personne de l'équipe.
Exactement.
Ou la première, si on considère que le son est prioritaire. Si le cinéma, c'est d'abord du son, vous étiez la première.
Aussi du son.
Aussi du son, pas que. Ça nous amène tranquillement au montage. Comment s'est passé le montage? Combien de temps y avez-vous travaillé? Avez-vous été aidé? Enfin, parce que toutes les configurations sont possibles. Il y a certains qui délèguent entièrement le montage, d'autres qui sont associés et d'autres qui ne veulent pas déléguer du tout et qui participent
eux-mêmes. Ouais. Écoutez, le montage, alors ce qui a été sur le moment frustrant et au final, je pense, très productif, c'est que je n'ai pas pu immédiatement plonger dans les rushs. Il se trouve que d'un point de vue professionnel, bon, je travaillais dans le cinéma et puis que j'ai eu un autre film et que pendant 6 mois, je n'ai pas regardé mes rushs. Donc ça, c'est la première étape et je trouve que c'était aussi pas mal pour moi parce que j'avais besoin moi-même de reprendre de la distance. Et quand on a passé un an avec des gens, il y a aussi une question affective, empathique. Enfin voilà, reprendre de la distance sur ses rushs,
plus c'est important. Plus un endroit de repérage, peut-être changer un peu d'air aussi.
Oui, aussi, mais voilà, se décoller un peu de vous. Donc ensuite, dérochage, choix des séquences importantes en termes de... Puisque l'enjeu était cette difficile prise de distance des étudiants, choisir les séquences dans lesquelles cet enjeu-là en particulier pouvait ressortir. Et ensuite, effectivement, il y a eu plusieurs étapes de travail. J'ai tout d'abord travaillé avec un monteur qui est, entre guillemets, spécialiste de la parole. C'est pas un monteur son, hein, mais un monteur qui travaille beaucoup la parole, qui s'appelle Jean-Pierre Bloch, avec qui on a vraiment travaillé sur le fait de resserrer et de sortir, entre guillemets, l'essence des conversations. Parce que, alors les rencontres avec les justiciables, elles pouvaient durer un quart d'heure, mais elles pouvaient durer une heure et demie. Donc, voilà, comment ressortir l'enjeu, c'est-à-dire... pour un étudiant, ce justiciable doit créer quelque chose, tout en rendant compréhensible l'histoire du justiciable, sans la dénaturer. Voilà, donc ce travail-là, ça a été un travail important. Je ne saurais pas vous le quantifier précisément, mais voilà, on travaillait, je pense qu'on travaillait 2 jours par semaine sur plusieurs mois, voilà. Ensuite, j'ai repris seul le montage. J'avais besoin de me replonger dans la construction de cette intériorité des jeunes. Voilà, j'avais des envies justement plus que de neutralité, de travailler la subjectivité. Donc ça, je l'ai fait toute seule, donc pareil, sur plusieurs mois. Et puis, j'ai montré 2 ou 3 étapes de montage à des professionnels ou à des amis qui sont plus ou moins aussi dans le cinéma. Et au final, j'étais un peu, vous savez, un petit peu coincée avec des séquences que je n'arrivais pas à abandonner ou que je n'arrivais pas à mettre dans le bon ordre parce qu'il y avait des enjeux, toujours des enjeux aussi de relations réelles avec certaines personnes filmées où ça m'ennuyait que la séquence arrive après une autre. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait appel à un jeune monteur qui s'appelle Cyril Curchaud, qui est quelqu'un d'une grande intelligence, très brillant, qui m'a beaucoup aidé à très rapidement à débloquer les choses juste en parlant avec moi, en fait. Hein. Il fallait que j'accepte de lâcher à certains moments. Et du coup, voilà, tout s'est mis en place. En 10 de jours, on a terminé le montage. Voilà, j'ai repris un détail parce que j'ai rajouté une séquence, mais voilà.
D'accord, donc le regard extérieur qui oui. permet de voir l'intégralité du projet,
exactement.
Du projet initial, du projet quasiment terminé et qui vous aide
Et tout ça échelonné sur un an, ouais, plus d'un an, pas un an et demi. Voilà.
Très bien. Bien, eh ben, nous allons vous remercier, Antoine de Flandre et Marie-Francine Le Jalut, pour cette première émission consacrée à ce film, que je ne peux qu'inciter les étudiants et leurs familles à voir, parce qu'effectivement, ils nous expliquent bien comment on est avec un amoncellement de connaissances auxquelles vous êtes soumis depuis la première année de licence, mais à un moment donné, que faire de l'ensemble de ces connaissances? Est-ce qu'on continue sur la voie à laquelle on avait songé la plupart du temps dès la première année, voire même avant, c'est-à-dire devenir avocat, ce que vous êtes devenu, ou est-ce que on va faire tout autre chose? Mais en même temps, le matériau du droit sera là, les questionnements pendant vos études seront là, et ils vous serviront dans la vie future. Comment ?
Avec certitude.
Avec certitude, oui. Je pense qu'on en ressort un peu rasséneré aussi du visionnage de ce film, à la fois sur les jeunes, sur les enseignements qui leur sont dispensés et sur ce qu'ils vont être capables de faire ensuite, hein, une fois qu'on les aura lâchés dans la grande nature. Hein.
C'est vrai.
Merci Marie-Francine.
Merci à vous.
Merci Antoine.
Merci.
Et bonne écoute aux uns et aux autres. Et merci à Léobardo Arango derrière ses écrans et son casque.